Studio Tamani, voici les informations en français.
Depuis Ansongo, vous avez parfaitement raison de choisir la radio Adar Koukia 101.8 FM pour vous informer. Il est 8h sur la pendule, les titres de cette édition matinale. C'est la période des examens blancs dans les écoles privées avant les examens du DF et du baccalauréat. Des pédagogues recommandent de faire le même exercice dans les établissements publics afin de mieux préparer les élèves. À Bla, les habitants déplorent l'absence d'électricité en continu dans la ville. Face à cette situation, ceux qui évoluent dans les secteurs informels ont trouvé des alternatives pour pouvoir continuer leurs activités. Oulhidja, l'un des mois les plus importants et les plus sacrés de l'année dans l'islam, démarre jeudi au Mali. Selon les juridis, les 10 premiers jours de ce mois ont de grandes vertus. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akilomaya, la mise en nom de Mamadou Attara. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Des écoles privées organisent des examens blancs, notamment pour le diplôme d'études fondamentales DEF et le baccalauréat. Bien que présentés comme une préparation des candidats, ces examens similaires soulèvent des questions sur l'absence dans les écoles publiques. Des pédagogues recommandent d'étendre cette pratique à tout le système éducatif, en particulier dans le secteur public. Maman Babakunta.
Alassane Keïta est le promoteur d'un établissement privé à Bamako. Pour lui, ces examens blancs permettent aux élèves de se familiariser avec les conditions réelles de l'examen, ce qui améliore leur performance.
Chaque année, nous organisons ce BATES qui est un bac blanc. Il s'agit de mettre les enfants dans toutes les conditions maintenant d'un examen réel, afin de les préparer mentalement et de gérer leur stress. Ainsi, maintenant, on donne l'occasion aux enfants de pouvoir faire des erreurs et de corriger maintenant ces erreurs avant le jour J.
Il n'y a aucune raison que les écoles publiques ne mettent pas en place des examens blancs. C'est en tout cas ce que souligne Cédric Loi. Pour le pédagogue, c'est simplement une question d'organisation et de volonté administrative.
C'est organisé très souvent par les établissements privés, mais ce n'est pas fermé aux écoles publiques. L'école peut s'organiser pour faire ses examens. Si toutefois c'est bien organisé, ça pousse les apprenants à réviser. Donc c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour les élèves qui y participent.
Les pédagogues invitent donc à un effort concerté pour généraliser cette pratique bénéfique.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. Dans le cercle de Bla, la fourniture d'électricité n'est pas assurée à 100%. Ainsi, les habitants de la ville ont 16 heures d'électricité par jour, soit de 19h le soir à 11h le matin. Cependant, ce délestage impacte le quotidien de certains qui évoluent dans l'informel, notamment les tailleurs, les soudeurs, entre autres. Toutefois, ces derniers ont pris des dispositions pour y faire face. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial à Bla, Lale Tangara.
Assis dans son atelier en train de coudre des habits, Bakary Djiré a réadapté ses horaires de travail à cause du délestage. Le couturier trentenaire n'a pas pu s'offrir un panneau.
La coupure, c'est à partir de 11h. Et là, on fait tout ce qui est manuel, comme coudre les modèles simples avec la machine à pédale. Les restes, comme les broderies et autres, on attend le retour de l'électricité à 19h. Et à ce moment-là, on bosse jusqu'à des heures avancées.
Assetou Sangaré, vendeuse de l'eau glacée, a quant à elle pu acquérir des installations solaires, ce qui lui permet de vendre régulièrement de l'eau glacée et satisfaire sa clientèle.
Ici à Bla, l'électricité ne suffit pas. Ce n'est plus 24 heures sur 24 comme avant. Cela fait que l'eau ne se glace pas suffisamment. Pour pallier ce problème, j'ai opté pour les panneaux solaires et ça va mieux maintenant.
Dans son atelier de soudure, Zoumana Sanogo s'affaire sur son matériel de travail. Il explique comment il fait face au délestage.
Quand il y a une coupure, tous nos travaux s'arrêtent. On a l'électricité de 19h jusqu'à 11h le lendemain. Or, nous travaillons plus dans la journée et on est là que durant quelques heures. On a opté pour le groupe électrogène. C'est coûteux car on paye les factures plus les carburants.
Ces hommes et femmes souhaitent toutefois avoir l'électricité 24h sur 24 à Bla. De Bla, Lale Tangara pour Studio Tamani.
De Bla, nous partons à Douanza. Le commerce du bétail connaît une forte activité à l'approche de la fête de Tabaski dans la localité de Ngouma. Dans le cercle de Douanza, au centre du pays, les prix des moutons ont subi une hausse importante. Selon les acteurs du secteur, cette spéculation serait due à l'insécurité de Ngouma. Nous retrouvons notre correspondant Ibrahima Maïga.
Nous sommes au marché à bétail de Ngouma. Pour le consommateur, il est difficile de négocier le prix d'un mouton à sa convenance. Brahma connaît un vendeur de bétail a quitté Koutiala pour venir exercer son commerce à Ngouma.
Je suis ici au marché, mais les moutons sont très chers. On n'en trouve même pas. Si le mouton manque ici, c'est que nous ne pouvons pas l'avoir ailleurs. J'ai payé plus de 20 têtes, mais cette année, pas plus que 10. À chaque fête, le transport monte et ça répercute sur le prix de Koutiala et Bamako.
Pour ces éleveurs venus des villages voisins, il est impossible de répondre à la demande cette année. C'est l'avis de Hamma Allah Ganou, un vendeur de bétail. Selon lui, cette année, la hausse des prix s'explique par le prix à la source, notamment celui demandé par les éleveurs.
Les moutons sont inaccessibles pour le moment. Les prix varient entre 135 000, 140 000 et 150 000 francs CFA. Si nous achetons à ces prix, difficile de les revendre moins.
Le coût élevé et le transport des aliments pour le bétail rendent le peu de moutons disponibles sur le marché encore plus onéreux, surtout à l'approche des festivités. Certains revendeurs préfèrent exporter à l'extérieur pour plus de bénéfices. Abdoulaye Tandina, éleveur à Ngouma.
Je viens de louer un camion pour la somme de plus de 2 millions de francs CFA en direction de la Côte d'Ivoire. L'aliment bétail nous coûte très cher et nous sommes obligés de chercher un peu.
Nos interlocuteurs sont unanimes. Ngouma est riche en moutons, difficile d'accès. De Ngouma, Ibrahima Maïga pour Studio Tamani.
Restons toujours dans la mouvance de la Tabaski de Jéridi affirme que le 12e mois de l'Hégire, Zulhijja, est l'un des quatre mois sacrés décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il souligne que les 10 premiers jours de ce mois sont les meilleurs de toute l'année. Selon eux, le début de ce mois pour l'année de 1446 de l'Hégire a été observé en Arabie Saoudite le mardi 27 mai 2025. Au Mali, il débute ce jeudi selon une communauté du ministère des Affaires religieuses. La fête de Tabaski est donc prévue le samedi 7 juin 2025. Pour en savoir davantage sur le mérite de ce mois béni, l'imam Mahaman Bouini de la mosquée de Hamabangou à Tombouctou nous donne plus de détails.
Ces 10 jours sont le meilleur parce qu'il y a 3 événements majeurs qui se passent pendant ces 10 jours. Le pèlerinage. Dans le pèlerinage, il y a ce qu'on appelle le 9e jour Arafat, le jour d'Arafat, le jour de stationnement des pèlerins, ainsi que le jour même de la fête. Donc, ces 3 actes font de ces 10 jours le meilleur. C'est pour cela que tous les actes de bienfaisance sont recommandés. Surtout, de jeûner pendant les 9 jours ou jeûner seulement le 9e jour, qui est le jour d'Arafat, faire des aumônes, des adorations, des invocations. En tout cas, ces 10 jours est vraiment c'est un moment important dans la vie de musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que règne la paix, l'entente et l'harmonie entre toute la Oumma islamique à travers le monde, principalement les Maliens.
Direction Tominia, des acteurs humanitaires se sont réunis mardi 27 mai 2025 à Tominia pour une session de renforcement des capacités sur la gestion des crises. L'accent a été mis sur les crises d'ordre sécuritaire, climatique et social. Cette formation organisée par l'ONG Adramali et AFAD vise à renforcer les compétences des premiers répondants communautaires, des communes d'intervention et du cercle pour mener les évaluations rapides et efficaces des besoins humanitaires en situation d'urgence au Mali et au Burkina Faso. Le financement est assuré par Adra Allemagne. De Tominia, nous irons à Ansongo. Un combattant d'un groupe armé du nord du pays s'est rendu à un mouvement d'autodéfense. La situation se produit le mardi 27 mai 2025. Il est parti de lui-même se rendre aux éléments du mouvement du Gatia, partenaire de l'armée malienne à Tassiga dans le cercle d'Ansongo. Selon des sources locales, il est venu avec armes et bagages pour remettre au poste du mouvement d'autodéfense Gatia basé dans la localité.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
La chronique d'aujourd'hui parle des préparatifs de la fête de Tabaski, en particulier les astuces mises en place par les chefs de famille pour faire face aux dépenses de la célébration. La chronique Zoom sur, c'est avec Aïssa Tayara.
Bamsa est un chef de famille qui avait anticipé les choses. Il avait acheté son mouton 2 mois en avance. Et lorsqu'il a reçu son salaire de 6 mois, il a pu facilement gérer les dépenses liées aux tenues des fêtes de ses 2 enfants et celles de sa femme. Contrairement à lui, son voisin Mamoutou n'avait rien préparé et il n'avait pas d'économie non plus. Nous sommes à quelques jours de la fête. Les enfants ont commencé avec les questions. Chaque jour à son arrivée, son fils dit « Papa, Où est notre mouton? Le père de mon ami papy a acheté un gros bélier, explique son fils. Le soir, sa femme également dit, c'est presque la fête et tu ne dis rien. Toujours une seule réponse de la part de Mamoutou, j'y travaille. Pourtant, la réalité est que son argent ne suffit pas pour les dépenses. Cher chef de famille, la fête doit être un moment de joie et non de stress. C'est pourquoi il est nécessaire d'anticiper les choses pour éviter les situations gênantes. Et la meilleure manière de vivre, c'est de vivre selon ses moyens.
C'est tout pour cette édition. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56 à Studio Tamani. Nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Merci d'avoir suivi cette édition qui vous a été présentée par Imran Akilomaïga. Les erreurs de diagnostic se définissent comme des retards, des erreurs, des omissions ou des défauts de communication du diagnostic au patient. Cette situation peut avoir des répercussions temporaires ou durables sur la vie de certaines personnes nécessitant des soins de santé. Cependant, selon des experts de la santé, le diagnostic doit être exact, correspondre au problème médical du patient, qu'il en soit atteint ou non, et être précis et complet. Ils expliquent que pour éviter ces erreurs, le professionnel de santé doit en comprendre les causes et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour les prévenir. Alors, comment éviter les erreurs de diagnostic et quelles sont ses conséquences? Les réponses dans ce magazine santé réalisé par Ousmane Nialibouli.
Selon des experts, poser un diagnostic correct est une tâche extrêmement complexe et sujette à l'erreur. Les patients ne peuvent pas toujours comprendre clairement cette complexité. Certains patients de Bamako, Tomenya et Yuaru, affirment souvent avoir été victimes d'une erreur de diagnostic médical.
On te fait des analyses, des prises de sang, des analyses et consorts. Ils te donnent un traitement. Tu n'arrives pas à t'en remettre de la maladie. Ça continue toujours. Quand tu reviens, on te propose un autre traitement. Comme si il traite par tâtonnement.
J'ai été une fois au centre de santé et on m'a dit que j'ai l'asthme. J'ai fait d'autres analyses, on a diagnostiqué un rhume chronique au lieu de l'asthme.
J'ai fait une première analyse, on m'a dit que j'ai le palu, mais j'ai constaté que je ne guéris pas et je suis reparti chez un autre médecin qui m'a confirmé que c'est de la typhoïde.
Docteur Oumar Diko, spécialiste en médecine des familles et médecine communautaire, explique que pour éviter les erreurs de diagnostic, il faut bien mener son interrogatoire. Cependant, il précise que le médecin ne doit pas oublier le contexte économique difficile du pays.
D'abord, il faut bien interroger le patient. Après l'interrogatoire, il faut faire l'examen physique du patient, de la tête aux pieds, en commençant par les plaintes du patient. Maintenant, à la fin de l'interrogatoire et de l'examen physique, il faut donner des examens complémentaires pour confirmer les diagnostics. Ça peut être des analyses simples, ça peut être aussi des examens comme la radiographie. Ça dépend du motif de consultation. Dans notre contexte au Mali, il faut aussi tenir compte aussi des conditions financières aussi du patient.
Docteur Mariam Koumaré, médecin légiste et médecin du travail au CHU.G, ajoute que la majorité des erreurs surviennent pendant la réflexion lors du processus diagnostique à cause d'informations, de pensées trompeuses et de raisonnements fallacieux. Selon elle, pour prévenir les erreurs de diagnostic, il est essentiel de tenir compte de certains aspects.
D'abord, de sensibiliser les professionnels au risque d'erreur diagnostique, mieux former les professionnels de façon initiale et continue, améliorer le travail en équipe, limiter les biais cognitifs qu'on a eu à expliquer déjà, ça c'est la connaissance qu'on avait dit, les jugements, améliorer les processus diagnostiques et les conditions de travail et enfin engager les patients et leurs proches.
La spécialiste explique aussi qu'il existe des recours possibles en cas d'erreur de diagnostic, notamment la demande d'indemnisation du préjudice subi.
Il y a le saisine du tribunal en fonction de la structure ou de l'établissement concerné. Et forcément, il faut qu'il y ait une faute qui est avérée. Cette procédure vise en fait à engager la responsabilité du professionnel ou de l'établissement. Ensuite, vous devrez adresser une lettre de demande d'indemnisation par un courrier recommandé au professionnel ou à l'établissement concerné. Et en dernier lieu, vous pouvez demander aussi une demande de sanction ou de modification des pratiques. Dans ce cadre, c'est ordinal en ce moment. C'est l'ordre professionnel qui s'en charge.
Les spécialistes de santé sont unanimes. La médecine n'est malheureusement pas une science science exacte et le corps médical n'est pas tenu à une obligation de résultat, mais il doit tout mettre en œuvre pour soigner sans garantir la guérison.